essentiellement réunis pour la VAP. Hein. On a un calendrier assez serré pour la VAP et un certain nombre de procédures administratives qui y sont liées, qui nous imposent ce conseil à la fin du mois de janvier. Je vais commencer comme d'habitude par l'appel. Monsieur Olivier Bonduel. Madame Marie-France Martin-Vagar. Monsieur Marc Lerouzic. Madame Christine Lamandé. Monsieur Jean-Yves de Ripper. Madame Janine Le Golvan. Madame Françoise Le Pennec. Monsieur Charles Bétry a donné un pouvoir à Olivier Lepic. Madame Marie-Vonne Belley. Monsieur Philippe Audot. Madame Catherine Isoard. Monsieur Patrick Lotaudet. Madame Christine Desjardins. Monsieur Michel Durand. Madame Morgane Petit est absente. Monsieur Gérard Marc-Albert. Madame Karine Le Déveat. Monsieur Hervé Le Donnant. Madame Monique Thomas est absente. Armelle Moreau est absente. Monsieur Jean-Luc Servet. Présent. Madame Nadine Rouet a donné un pouvoir à Monsieur Paul Chapelle. Monsieur Pascal Lejean a donné un pouvoir à Monsieur Philippe Audot. Monsieur Loïc Houdois. Présent. Madame Sylvie Robineau. Présent. Monsieur Paul Chapelle. Présent. Présent. Et Olivier Lepic, présent. Nous avons donc le quorum pour délibérer. Il nous faut une secrétaire de séance. Madame Le Pennec. Je vous remercie, vous n'avez pas le choix. On commence toujours évidemment par l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 21 décembre 2018. Il y a eu quelques échanges, parce qu'il y avait quelques boulettes dans ce compte rendu. Elles ont été corrigées. Monsieur de Ripper, on a corrigé les petites boulettes qu'il y avait dans le compte rendu. Il vous va sous cette forme. Il est donc approuvé, je vous remercie. Compte rendu des décisions du maire, vous les trouvez dans le dossier numéroté de 119 à 128 pour les décisions de l'exercice 2018 et la première décision du maire 2019, numéro 1. Est-ce qu'il y a des questions sur ces décisions du maire ? Madame Le Golvan.
Oui. La 125, contribution financière pour une extension du réseau public d'électricité avenue du Raïc. C'est pour qui quel enfin,
c'est Monsieur Marc-Albert.
C'est pour le permis Bouygues. Quand on fait dans les OAP et dans des gros permis, souvent il y a besoin d'extension de réseau et la commune participe une partie. Comme on a mis des terrains constructibles à certains endroits, la commune est obligée de porter l'eau, l'électricité et l'assainissement à la limite de propriété. Donc ça fait partie de cela. On en a souvent, hein, ça passe, il y en a 3-4 par an, principe comme ce style-là.
D'accord, c'est pas aux porteurs de projet en fait de payer tout ça.
Si c'est le porteur de projet, après c'est un transformateur privé. Et quand c'est comme ça, nous après on pourra se brancher si on a besoin, si on a besoin de choses comme ça.
D'accord.
Ouais. D'autres questions sur les décisions du maire ? Pas d'autres questions, je vous remercie. Donc on passe au plat de résistance de ce conseil municipal. Je vous propose de ne pas être très dissert et très long sur cette AVAP, même si vous connaissez tous l'attachement que j'y porte, d'abord parce qu'on a eu l'occasion, que ce soit dans le hall de la mairie, au terme des différentes expositions, réunions publiques, puisque nous avons eu des réunions publiques, nous avons aussi beaucoup travaillé au sein de la CLAVAP, au sein des commissions municipales, pour adopter cette AVAP, qui a donc été adoptée à l'unanimité lors de la réunion de la CLAVAP il y a quelques jours. Monsieur de Ripper, Monsieur Le Rouzic étaient présents. L'ensemble des services de l'État ont eu l'occasion de se prononcer sur ce document qui représente un travail très important, en amont bien évidemment, mais je dirais que d'une manière plus générale, je suis très attaché à cette AVAP parce que, vous le savez, nous avons un patrimoine absolument extraordinaire sur la commune de Carnac. Il a eu la chance d'être protégé. Contrairement à d'autres stations balnéaires. Et aujourd'hui, nous manquions d'un certain nombre d'outils pour permettre de continuer à protéger ce patrimoine, qu'il soit urbanistique, mais également, je dirais, naturel, puisqu'il y a également des arbres ou des fontaines, un certain nombre de monuments du patrimoine vernaculaire qui rentrent aussi dans cette AVAP. Et ce dispositif va permettre de protéger définitivement la commune des appétits de la promotion immobilière. Il ne s'agit pas de la figer, évidemment, complètement dans la forme qu'elle a aujourd'hui, mais j'ai cette conviction que je répète inlassablement que l'authenticité, le charme, le fait que grâce aux élus précédents, Carnac a été relativement protégé du béton, est quelque chose qui a énormément de valeur et qui en aura encore plus dans l'avenir. Donc cette AVAP que nous allons donc adopter ce soir et qui fera l'objet, elle n'entrera pas en vigueur ce soir, hein, ce soir nous franchissons une nouvelle étape du processus administratif, mais en tout cas cette AVAP va permettre, et je pense que c'est à l'aune des 30 ou 40 prochaines années qu'on mesurera d'ailleurs la qualité ou pas d'ailleurs de cette AVAP, parce que c'est d'une façon en fait de gérer stratégiquement le patrimoine de la commune et pas simplement, je dirais, à l'horizon d'un mandat ou de quelques années. Elle a beaucoup évidemment de composantes, hein. Vous avez pu en prendre connaissance dans le rapport qui présente cette AVAP, qui détaille à la fois ses enjeux, que ce soit la campagne sur le caractère balnéaire, la ville, l'architecture très caractéristique balnéaire et de villégiature de notre commune, ainsi évidemment aussi que les mégalithes, parce que la VAP est clairement également un outil et un atout supplémentaire dans le cadre de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, puisque dans la quatrième partie de cette épreuve qui va nous amener à l'inscription à l'UNESCO, le plan de gestion, je vous rappelle que nous sommes à la troisième étape de l'inscription, de la possibilité de pouvoir déposer notre dossier devant l'UNESCO. Nous avons eu la déclaration de valeur universelle, ensuite l'étude comparative. En ce moment, le comité scientifique travaille sur la délimitation du site. Ces travaux devraient se terminer normalement au printemps et nous devrions repasser devant le comité des biens français sur la délimitation du site probablement à la fin du printemps. Et la quatrième étape que nous devons également boucler, qui est probablement la plus importante aux yeux de l'UNESCO, c'est le plan de gestion, c'est-à-dire la capacité à démontrer à l'UNESCO que nous avons à la fois une législation, des règlements pour protéger et mettre en valeur notre patrimoine mégalithique. Et cette AVAP va être évidemment dans la mesure où elle va organiser, limiter, je dirais, et protéger un certain nombre de biens qui sont à proximité directe de ce patrimoine mégalithique, va être un atout très important, puisque Carnac est le vaisseau amiral de cette inscription, hein, même s'il y a beaucoup de mégalithes et des mégalithes majeurs dans d'autres communes, hein, notamment Arzon et Locmaria-Lacquière, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être aussi fondamental dans la possibilité d'obtenir cette inscription auquel nous croyons tous. Que dire d'autre ? Remercier évidemment tous les gens qui ont participé à ces travaux. Évidemment, je pense à Paul, je pense à Jean-Luc, je pense à Michel, je pense à tous les conseillers municipaux qui ont participé à ces travaux. Je pense également à M. Lerouzic, M. De Ripper qui ont participé à la CLAVAP et à l'ensemble des conseillers municipaux qui ont participé dans les commissions à ces travaux. Ça a été un inventaire très très long. Je n'oublie pas également les services, Anne, et puis Delphine, et puis toutes les équipes de l'URBA qui ne sont pas là, mais Sylvie, évidemment, qui a ici beaucoup, beaucoup travaillé sur ces questions. Et donc, avant de passer aux questions éventuelles et au vote, je voudrais vraiment remercier l'ensemble des conseillers municipaux et des agents qui ont participé à ce travail. Je pense que c'est quelque chose dont, j'espère, on pourra être fiers. Je ne veux pas non plus écarter... Et évidemment, masquer le fait que ce sont des contraintes supplémentaires, hein, en termes d'urbanisme, c'est-à-dire qu'il sera plus difficile, dans certains cas, parfois, de poser un Vélux. L'intervention de l'architecte des bâtiments de France sera un peu plus étendue sur le territoire de la commune. On sait les contraintes que ça représente, hein, il suffit de... les gens qui siègent à la commission urbanisme le savent, à Carnac, on a un tissu réglementaire qui est extrêmement complexe et qui... Mais encore une fois, je pense que le jeu en vaut la chandelle, et même si c'est des contraintes, c'est le prix à payer pour conserver la beauté et l'authenticité de notre commune. Donc je suis évidemment très favorable à cette AVAP, et je pense que vous le serez aussi. Est-ce qu'il y a des questions sur cette AVAP, Monsieur Deripa?
Justement, comme vous venez de le dire, je voulais faire remarquer que le règlement fait compte 200 pages, qu'il est quand même très complet et qu'il est très contraignant, et qu'il faudra peut-être se donner aussi les moyens de le faire appliquer et de vérifier ensuite, de contrôler son application. Ce qui va sans doute pas être simple, c'est déjà difficile dans le cadre du PLU, et je pense qu'avec l'AVAP, ça va complexifier un petit peu plus le traitement de tous les permis de construire, de toutes les déclarations préalables.
Tout à fait, c'est ce que j'évoquais, hein. C'est une contrainte supplémentaire, évidemment il va falloir la faire vivre et mesurer au fil de l'entrée en vigueur la nature et l'ampleur de cette contrainte. Encore une fois, c'est le prix à payer à mon sens pour protéger la commune. Je pense qu'il y a tellement de communes qui aujourd'hui regrettent de ne pas avoir mis des dispositifs en place, qui ont des fronts de mer ravagés. Voilà, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites et j'en ai parfaitement conscience. On pourra évidemment affiner ce règlement au fil de l'eau et au fil de la mise en œuvre de cette AVAP. Encore une fois, j'assume tout à fait cette complexité supérieure et il va falloir faire en sorte effectivement que ce ne soit pas des contraintes trop importantes. Mais encore une fois, c'est le prix à payer, je pense, pour garder une commune aussi belle et auquel nous tenons tous et au patrimoine qui est sur le territoire de cette commune. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Monsieur Leroudic.
Ce n'est pas une remarque, je vais compléter ce qui est dit, enfin dire à peu près la même chose pour ce qui me concerne. C'est vrai que c'est un bel outil de protection de notre patrimoine et il était essentiel de le mettre en place. Bien sûr, ça apportera des contraintes comme vous venez de l'évoquer, M. de Repère également, puisque donc évidemment qui dit patrimoine, préservation, eh bien, dira aussi difficultés à pouvoir les rénover parfois. Et donc au niveau de l'urbanisme, ça va poser quelques problèmes. Mais aussi pour d'autres choses, ça permettra de les maintenir en place.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Philippe ?
Juste une question, en fait, M. de Ripard, quand vous dites des vérifications, c'est a posteriori, c'est-à-dire une fois les réalisations faites. On a des outils aujourd'hui, Monsieur le maire, par rapport à ça ?
On a des contrôles, bien sûr.
Hein, des contrôles qui sont faits.
Une fois qu'un permis a été déposé, des travaux, il y a une déclaration de travaux, enfin de fin de travaux, il y a des contrôles. Alors, ils ne sont pas totalement exhaustifs parce que l'urbanisme, les services d'urbanisme ne peuvent pas se déplacer systématiquement, mais dès que la police municipale ou un voisin nous signale quelque chose qui n'est pas conforme, en général, on se déplace, la police municipale se déplace. Évidemment, voilà, il n'y a pas 100% de garantie. Il y a aussi des gens qui font des travaux sans déposer de permis, ni de permis de travaux, ni parfois ni de permis de construire. Hein. Et ça aussi, ça fait partie de... Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que le fait qu'on ait gardé la compétence urbanisme, ça permet aussi d'avoir encore cette proximité dans une commune qui est très attractive avec quand même beaucoup d'actes d'urbanisme. Ça permet aussi, par le bouche à oreille, parfois de détecter des choses qui ne sont pas conformes au permis.
Là, je me fais une remarque. Nous, on s'est vu en commission urbanisme faire des remarques qu'on nous avait remontées. Et on s'est renseigné, la police municipale, vous n'avez jamais acté le fait qu'elle aille contrôler. Donc, c'est pour ça qu'on fait la remarque quand même.
Et c'est pour ça que vous siégez dans la commission, là, M. Golvan ?
Nos remarques ne sont pas capables de nos remarques.
Ça, c'est vous qui le dites, je pense pas. M. de Ripert fait des remarques de temps en temps, y compris sur le PLU ou sur la VAP. Je pense qu'on en tient compte quand elles sont pertinentes. Après, c'est facile de dire on ne tient pas compte, la police municipale n'est pas arrivée. La police municipale fait son travail, Mme Le Golvan. Et je pense que ce n'est pas les élus qui leur disent de ne pas le faire. Quand M. Durand a ce genre de remarque, je pense que souvent, il m'en parle et souvent, on fait contrôler. Donc, c'est un peu gratuit, ce que vous dites.
Ce n'est pas gratuit. Il y a deux dossiers, enfin, en tout cas, un dossier. On a demandé à plusieurs fois qu'il y ait un contrôle. On a vérifié au niveau de la commission urbanisme. Rien n'a été fait. Et ce dossier, ça concerne, vous savez très bien, et on peut le dire, puisque de toute façon... on l'a vu en commission d'urbanisme, c'est le dossier de Mme Moreau, et rien n'a été fait depuis qu'on a demandé ces contrôles.
D'abord, j'ai bien compris que vous vous acharniez sur le dossier de Mme Moreau parce que vous avez tellement envie, vous auriez tellement envie de faire croire qu'il y a eu un passe-droit sur ce dossier. Il n'y a eu aucun passe-droit, et je pense que je peux demander au service de témoigner. J'ai sollicité à plusieurs reprises les services sur la légalité de ces installations, que ce soit sur la capacité d'accueillir le public. Vous avez eu de nombreux débats sur le sujet. Ça vous ferait effectivement très, très plaisir. Et ça fait au moins 15 fois que vous revenez sur le sujet. Je pense que M. Durand vous a donné toutes les explications nécessaires sur ce dossier. Donc, franchement, encore une fois, c'est de la polémique pour de la polémique. Il n'y a pas de passe-droit en urbanisme à Carnac. Madame Le Golvan, ne m'emmenez pas sur ce chemin-là parce que
Monsieur le maire, comme ça sera bien audible.
Tout à fait. Alors, il n'y a pas de passe-droit à Carnac et si vous voulez qu'on passe sur des sujets dans lesquels on doit être irréprochable, je peux aussi y venir. OK ? Qui ne concerne pas l'urbanisme. Le dossier est clos. C'est très facile de faire des accusations comme ça, surtout publiques, quand la personne n'est pas là en plus, ce qui est très courageux. Mais il n'y a aucun passe-droit en urbanisme à Carnac. Et si vous trouvez qu'il y a un passe-droit, prouvez-le. Prouvez-le. C'est facile, vous attaquez. Vous attaquez devant le tribunal administratif et on verra bien s'il y a eu un passe-droit. Parce que sinon, ça s'appelle simplement des rumeurs et des attaques qui ne reposent sur aucun fait juridique. Merci, madame.
Une question. est-ce que c'est rétroactif, le règlement de la VAP? Non, c'est à partir du moment où la VAP est...
Ah, bien sûr. Okay. Pas d'autres points, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ce rapport, donc qui vous demande de prendre acte du bilan de concertation, d'arrêter le projet de la VAP, de soumettre pour avis le projet d'AVAP à la Commission régionale du patrimoine et de l'architecture, ainsi qu'aux personnes publiques associées, et enfin d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à poursuivre la procédure AVAP et à poursuivre et à engager toute action ou procédure complémentaire nécessaire, notamment en termes de protection délimitée des abords, le PDA, et d'enquête publique. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. On passe au rapport numéro 5, restauration collective, le groupement de commandes entre la commune et le CCAS. Vous savez que le restaurant scolaire est en cours de construction, vous ne savez pas si vous n'avez pas passé une tête à l'endroit du chantier. Beaucoup de chantiers en ce moment à Carnac. Et donc, dans la mesure où le collège Saint-Michel a décidé de construire sa propre cantine, eh bien, nous allons passer... dans la cantine municipale pour ce qui concerne le nombre de repas servis aux élèves de 76 000 à 22 000. Nous avons également 42 000 repas qui sont servis à l'année au CCAS. Et donc, nous avons pensé, il s'agit simplement d'un rapport qui ne prend pas de décision. Hein. C'est un accord de principe puisque le conseil d'administration du CCAS sera souverain. Hein, c'est-à-dire qu'il doit aussi se prononcer sur cette question. Mais il s'agit simplement de vous proposer de réfléchir à la création d'un groupement de commandes qui permettra donc de mutualiser un certain nombre de fonctions et notamment les fonctions achats. Hein. Il s'agit de chacun, que la cuisine, les cuisines resteront séparées, c'est-à-dire que la cuisine sera toujours faite dans la cuisine du CCAS et à la cantine, mais que le détenteur du marché commun permettra de faire notamment des achats communs en termes de nourriture et aura aussi quelques avantages. Aujourd'hui, par exemple, au CCAS, si on avait deux cuisiniers qui tombaient malades, eh bien, on serait dans une situation un peu compliquée. Là, on aurait, ça n'arrive jamais, heureusement, mais dans une situation exceptionnelle, on pourrait aussi, par exemple, avoir quelqu'un qui supplée à la maladie d'un agent. Donc, le principe, c'est d'essayer, effectivement, de mutualiser pour faire des économies. On va travailler avec le conseil d'administration du CCAS sur cette question. Je pense que Loïc et Sylvie seront amenés à... ont déjà été amenés à travailler ensemble. On va consulter également le conseil d'administration du CCAS. Et donc, ce rapport vous demande de prendre donc un accord de principe sur la création de ce groupement de commandes relatif à la restauration collective des deux établissements. Est-ce qu'il y a des questions sur ce groupement de commandes, Monsieur Deripa?
Oui, on parle de 76 600 repas, midi et goûter. C'est-à-dire qu'il faut diviser par deux les 76 600 repas pour avoir le nombre de repas midi ou comment ça fonctionne? On donne la même importance au... Ça veut dire quoi? Midi et goûter, c'est... midi et goûter, on considère que ça fait un seul repas ou on considère que ce sont deux repas?
On les additionne, mais par contre, il n'y a pas autant d'élèves qui prennent les goûters. Les goûters, c'est uniquement ceux qui vont à l'accueil
soir. Mais par contre, les goûters sont inclus dans les 76
000. Ils sont comptabilisés dans les 76 000.
D'accord. On passe au vote ensuite, monsieur le maire. Bon, donc je voulais dire que on a toujours défendu le fait qu'on souhaitait avoir une cuisine centrale pour trois points de consommation. Donc de toute façon, on pense que la mutualisation, d'accord, ça va dans le bon sens, mais ce n'est pas une mutualisation totale et ce n'est pas ce qu'on avait, nous, préconisé au départ. Donc on s'abstiendra.
Parfait. Je vous propose de passer au vote. Donc il n'y a pas de vote contre. Abstention. Le rapport est donc adopté. Monsieur Chapelle, sur l'appel à projet du centre-bourg.
Voilà, alors je vais d'abord vous faire une lecture littérale de ce paragraphe, et puis après je pense qu'on aura l'occasion de fournir des explications. Alors, dispositif régional en faveur de l'attractivité des centres-villes et bourgs ruraux en Bretagne, en partenariat avec la région, l'État, l'établissement public foncier et la Caisse des dépôts et consignations, est reconduit. Il s'agit du contrat de plan, en fait, État-région. Les communes peuvent présenter leur candidature jusqu'au 28 février 2019 en cycle étude ou en cycle opérationnel. Autrement dit, le cycle opérationnel, c'est le cycle travaux, en fonction de l'état d'avancement de leur démarche. Alors, cette phrase-là, on peut l'expliquer. Il s'agit finalement de savoir si la commune veut candidater pour soit soumettre à l'analyse par les services, différents services de l'État, ça peut être la région, l'État, l'établissement public foncier, la Caisse des dépôts, ça peut être aussi la communauté de communes ACTA, si dans le cadre de la redynamisation des centres-bourgs, on souhaite finalement candidater, promouvoir un projet global qui pourra être retenu dans le cadre de cette étude. C'est-à-dire, en d'autres termes, on candidate pour dire voilà ce que notre commune, voilà les différents projets que l'on a en termes d'OAP, en termes d'UNESCO, en termes d'aménagement global, et voir si ces dossiers, cet aménagement global peut intéresser l'État, notamment en matière de subventions, etc. Je ne suis pas forcément très clair, mais on détaillera, puis je répondrai à vos questions. C'est vrai que ce n'est pas simple même à expliquer en bureau municipal. Cet appel à projet a pour objectif d'aider les communes et plus largement les territoires à réinventer leur centre et répondre aux besoins des habitants sur toutes leurs dimensions de leur vie quotidienne. Il s'agit de faciliter et de rendre visible la réussite de projets d'ensemble sur des périmètres géographiques délimités pour démontrer que de nouveaux modèles de développement et notamment de nouveaux modèles économiques peuvent prospérer dans les centres-villes et les bourgs ruraux de Bretagne. L'objectif est de passer de l'idée au projet en aidant les collectivités à bien mobiliser tous les moyens disponibles pour sa concrétisation, y compris en facilitant et en sécurisant l'intervention d'une diversité d'acteurs, et notamment d'acteurs privés. Alors, on va essayer de résumer ça aussi simplement que possible. Carnac est quand même à un virage de son développement. Nous avons beaucoup de normes qui s'inscrivent dans ce développement et de contraintes. Nous avons le projet UNESCO, il y a les différentes OAP qui auront un impact sur le développement de la commune, il y a également le plan local de l'habitat qui entraîne différentes contraintes et obligations, entre guillemets, de développement de logements. Il y a également le SCOT commerce la compétence commerce par ACTA qui aura une influence sur l'aspect futur de la commune de Carnac. Il y a également dans ce cadre-là les projets Bellane-Bellevue dont évidemment on aura à s'occuper, je crois, maintenant très rapidement. Je pense que ça vaut le coup d'essayer de candidater à ce projet. Pourquoi ? Parce que, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on n'a pas vraiment, nous, élus et même services, puisque c'est très très compliqué et ça demande du temps, la compétence pour dire voilà ce qu'on va faire de tel ou tel terrain, de développer de façon peut-être un peu brouillonne, anarchique, pourquoi pas, ou au doigt mouillé, tel OAP, tel projet Bellane-Bellevue. Est-ce que ces projets-là s'inscrivent également dans le projet plus global, parce qu'il s'agit d'un projet global, dans les aménagements qui pourraient être nécessaires, notamment dans le développement, dans la valorisation du projet UNESCO? Ça implique quoi? Il y a deux aspects. Ça implique notamment des études en termes de mobilité. Ça reprend aussi un développement. Prenons une hypothèse d'école. Si nous décidons de faire sur toutes les OAP, sur Bellane-Bellevue par exemple, ça touche beaucoup sur le logement, il y a deux thèmes principaux, le logement et la mobilité, de faire une même typologie de l'habitat partout, on peut peut-être se tromper. Il s'agit finalement d'accompagner, et le mot est inscrit ici, d'accompagner également les promoteurs privés qui évidemment sont très très intéressés par Carnac, de les accompagner et de leur dire voilà, à tel ou tel endroit, les sachants, les bureaux d'études, parce que nous, élus, on a des compétences, c'est sûr, mais c'est quand même une responsabilité. On va dessiner Carnac pour les 10, 15 ou 20 prochaines années. Prenons le cas d'un lotissement. Est-ce que c'est pas mieux de faire un lotissement avec une petite partie, avec des services publics? Est-ce que c'est mieux de faire un lotissement avec une voie traversante, qui est une voie privée, qui pourrait éventuellement devenir publique, de manière à assurer une certaine mobilité de l'habitat, de trouver des jonctions entre également tous les sentiers piétons, les sentiers, les pistes cyclables, et plus généralement la circulation. Ça s'inscrit également dans les dispositions prévues par la loi Allure depuis 2014 et qui ont été entérinées par le plan local de l'habitat, qui édicte que Carnac est également un pôle de vie. Un pôle de vie dans le sens où, par rapport aux deux communes voisines, puisqu'elles font partie de notre centre de vie, par rapport à Plouarnel et La Trinité-sur-Mer, Carnac est une commune pôle. Une commune pôle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, finalement, les futures activités, les futurs services publics doivent être développés en priorité sur la commune de Carnac. Il ne s'agit pas de dire que tout sera à Carnac, que les autres communes vont disparaître, non, loin de moi cette idée, mais il s'agit de répondre aux besoins, d'accompagner les besoins et les objectifs que l'on doit essayer de remplir en matière de construction de logements et de les accompagner aussi par des services publics qui accompagneront cette augmentation de population. Tout ça en tenant compte également des problématiques liées à la station balnéaire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prévoir, il faut prendre en compte tous les critères. Éventuellement aussi, ce qui est prévu, c'est en fonction de la circulation des liens entre la campagne, le bourg et la plage. Tout ça, c'est un sujet vraiment très complexe pour lequel il ne faut pas se tromper. Donc moi, je pense qu'il y a un intérêt. On avait déjà commencé à travailler il y a un an sur le sujet, puis finalement, c'est tombé un petit peu à l'eau. Mais maintenant, on se rend compte que devant la fougue qu'ont les promoteurs construire leur projet à Carnac, devant le projet UNESCO aussi qui s'inscrit dans ce cadre, il est intéressant d'avoir les compétences et le partenariat avec les collectivités et l'État, c'est-à-dire le département, la région, ACTA, etc., pour pouvoir autant que possible essayer d'avoir une étude globale et harmonieuse du développement du territoire. Je pourrais vous citer un exemple. Par exemple, à Aura, ils ont obtenu. Alors, oui, il y a deux moyens de faire un appel à projet. Il y a d'abord le cycle études ou le cycle travaux. Évidemment, nous, on serait dans la colonne études. Il ne s'agit pas de financer des travaux, on n'a pas de projet particulier. On demande quels seront aux spécialistes, quels seront les meilleurs projets pour notre commune. À titre d'exemple, la commune d'Auray a obtenu le versement de 2 millions d'euros dans le cadre d'un appel à projet. C'était pour un volet travaux, mais ils ont obtenu cette subvention-là. Alors, il va de soi que c'est un peu le même principe que les contrats de plan. À partir du moment où on intègre l'État ou la région ou certains organismes publics à s'intéresser à notre projet, évidemment, lorsqu'on demande des subventions par la suite, il ne s'agit pas de dire, tiens, je veux une subvention pour tel ou tel projet. Non, ils savent de quoi on parle. Ils auront cette étude, ils auront été partenaires aussi dans la construction de cette étude, qui elle-même pourra être subventionnée, évidemment, même si au jour d'aujourd'hui, je ne vous donnerai pas de chiffres, hein, parce qu'il s'agit simplement de candidater. Et voilà, l'esprit, c'est de dire qu'il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi de notre commune. Et il y a tellement de critères. Une fois que c'est fait, après, on ne pourra pas revenir en arrière, quoi. Donc, c'est un peu un appel à la prudence et surtout un appel à la compétence. Je pense que l'UNESCO prend une part aussi importante dans l'intérêt que je crois de cet appel à projet.
Si jamais on demande à l'État des subventions, qui garde le leadership de l'histoire? C'est toujours la mairie qui garde le leadership. Il n'y a pas, sous prétexte de subvention, un grappillage.
Non, ce sont deux choses complètement différentes. C'est toujours la commune qui est pilote.
La commune est pilote et reste pilote.
C'est un peu comme le projet du centre-bourg. On avait certainement des idées d'aménagement, mais on demande évidemment à des bureaux d'études de nous dire voilà comment on aménage le centre-bourg. Pour le boulevard de la plage, on ne se sentait pas, nous, capables de faire nous-mêmes les tracés, enfin, ce qu'on voulait à cet endroit-là. Donc là, c'est exactement la même chose, sauf que c'est une échelle plus globale. Voilà, il s'agit de répondre à une échelle globale. On est dans le cadre d'un plan État-Région. Donc c'est un projet qui ne concerne pas simplement un projet de travaux précis, je crois que c'était le cas pour Auray, mais là, ça prend en compte tout plein de critères. Hein, le développement des écoles, on peut intégrer un projet, le projet de musée, on peut intégrer le fonctionnement du yacht club. Enfin, il y a l'harmonie entre le balnéaire, entre le tourisme et l'habitation à l'année. Voilà, tout ça, il faut essayer de le maîtriser.
Monsieur Chapelle, quand je comprends l'idée de faire appel au cycle études, je comprends qu'il y a tout à faire, puisque c'est ce que vous dites. Par contre, vous avez un cahier des charges, en tout cas, vous devez répondre à un appel à projet. Et quand je vous entends, j'ai l'impression que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et quand on défend, quand on dit un appel à projet, il y a un projet, mais il y a une idée. D'ailleurs, ils le disent, on passe de l'idée au projet. Donc, vous défendez quelle idée en priorité? Est-ce que c'est le logement, la mobilité? Parce qu'il y a tout. Après, on parlait des circulations douces.
Voilà. À partir du moment où il y aura des logements de créer, où il y aura donc quelques hectares qui vont se libérer à Bélanne et Bellevue, il ne s'agit pas de se tromper à la fois dans la typologie de l'habitat, à la fois dans les besoins nouveaux qui vont être créés au niveau... Je croise les doigts des crèches, on peut dire aussi des EHPAD, mais bon, on va dire des crèches, c'est plus cool, des écoles, des commerces, des services publics. Donc, c'est vrai que c'est une vision très, très globale. Alors, là, il s'agit simplement de candidater. Donc, il n'est pas du tout certain que la commune de Carnac soit retenue. Hein. Le cahier des charges, je comprends votre question, Mme Le Golvan. C'est vrai que c'est... en fait, le cahier des charges consiste à donner les éléments pour permettre au bureau de faire des suggestions d'aménagement. On va dire, voilà, on a des objectifs dans le cadre du PLH de construire tant de logements. On a la problématique UNESCO avec un périmètre qui n'est pas défini, enfin, qui va être délimité, monsieur le maire, bientôt. Hein. On a les contraintes du code commerce qui, par exemple, vont nous dire... On n'a pas d'hypermarché à Carnac, on veut développer les centres-bourgs. C'est l'objet, c'est le terme d'ailleurs de ça. La suggestion d'une maison médicale, par exemple. On n'a pas d'idée arrêtée, mais voilà, ça peut être des suggestions qui peuvent être faites dans ce cadre-là. Donc, si vous voulez, c'est un peu un grand cadre dans lequel nous, on met un grand mixeur, dans lequel on met les éléments, on met nos contraintes du SCOT, nos contraintes du PLH, nos contraintes de la VAP aussi, parce qu'il y a des endroits où la VAP a une certaine importance en matière de développement, nos contraintes de circulation douce. Hein, on n'a pas la compétence, on peut se tromper si on fait une piste cyclable ou une voie piétonne à un mauvais endroit, alors qu'ils considèrent que si c'est plus proche des écoles et du bourg, c'est plus pertinent de le faire là. Tout ça, ça rentre dans le cadre. C'est vraiment, c'est un grand mixeur. Hein, je comprends, j'essaie de me faire comprendre, mais ce n'est pas facile. Hein.
Si, quand vous avez exprimé tout à l'heure, si ça partait du logement de Belan, par exemple, ça me paraît cohérent. Quand vous avez exprimé Belan-Bellevue, par exemple, c'est vrai qu'on a tous ces hectares qui sont là. Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, pour moi, l'idée partant de là me paraissait assez cohérente, dans la mesure, en effet, si on a beaucoup plus de familles, qu'est-ce qui se passe derrière? Enfin, c'était cohérent. Maintenant,
c'est ça.
Voilà, mais est-ce que l'idée, justement, de départ, c'est pas de dire, ben voilà, on a un projet de lotissement, enfin, à cet endroit-là, il y a plusieurs hectares, il y aura plusieurs familles. Maintenant, derrière, qu'est-ce qui va en découler, quoi? Oui. Enfin, moi, je le voyais comme ça, je vais un peu de mal.
Non, mais vous êtes dans le thème, hein. Vous êtes dans le thème. On peut intégrer aussi, par exemple, une nouvelle forme d'habitat qui est en train de commencer à se développer. On a fait une petite réunion avec ACTA à Erdeven au niveau du foncier solidaire. Hein, il s'agit de permettre plus facilement aux jeunes ou moins jeunes d'acheter sur la commune, dans le sens où ils n'ont pas à financer le foncier, mais ils financent simplement la construction. Il y a eu beaucoup d'échos auprès des maires et des représentants à la fois des élus et des services des communes qui étaient présents invités à cette réunion. Et on se dit, voilà, pour des jeunes, évidemment, s'ils n'ont pas le terrain à payer et s'ils agissent en tant que propriétaires, c'est quand même plus facile de les faire venir. Vous voyez, c'est... vraiment, c'est pour assurer un développement aussi harmonieux que possible de la commune. On a beaucoup de données actuellement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qui sont très compliqués. Les OAP, Jean-Luc pourra confirmer, il y a quand même un afflux de promoteurs qui font des demandes. On ne sait pas toujours comment quoi répondre. Il y a des avis de l'ABF qui disent « Ben ouais, mais là, c'est pas bien. » Bon, donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Je pense vraiment qu'il faut avoir l'humilité de dire que ce ne sera pas un luxe d'être accompagné dans ce projet global. L'UNESCO, c'est one shot. Les OAP, c'est one shot. Belle-Anne-Mellevue, c'est one shot. On n'a jamais eu autant d'hectares qui risquent d'être, en tout cas, aménagés dans un délai plus ou moins long, bien entendu. Un autre intérêt dans cet appel à projet, c'est d'avoir aussi un planning. Ils peuvent nous dire, voilà, c'est plus pertinent de développer certaines zones plutôt que d'autres, de commencer par exemple par l'extérieur du bourg ou par le centre-bourg, et puis de faire par tranche, par exemple, Belle-Anne-Bellevue, et dans quelle tranche, commencer par laquelle, mettre quoi. Vous voyez, moi, franchement, j'aurais des idées, comme vous aussi, mais voilà, c'est...
Non, mais je trouve très bien qu'il faut candidater, ça c'est une évidence. Par contre, j'avais une petite question, on se candidate bourg ou on candidate ville? Parce que c'est pas le même montant. Et...
Voilà, alors, je vais vous préciser que c'est le principe de base, c'est la rénovation du centre-bourg, c'est la redynamisation du centre-bourg. Mais la redynamisation du centre-bourg, ça va plus loin que sur le périmètre de centre-bourg. C'est ça qu'ils vont essayer de nous expliquer, on essaiera d'en savoir plus également, c'est que faire vivre un centre-bourg, c'est aussi tenir compte de ce qu'il y a autour du bourg. Vous voyez, c'est ça. Il ne faut pas que l'on crée, par exemple, des services ou des déplacements qui soient, par exemple, trop éloignés du bourg. Alors, il y en a certains, peut-être, qui peuvent être éloignés du bourg pour diverses raisons, parce que les gens ne viendront pas à pied. Par exemple, est-ce que c'est pertinent d'avoir un foyer pour personnes âgées ou pour personnes à mobilité ou très handicapées qui ne peuvent pas se déplacer, de l'avoir en centre-bourg? Je ne sais pas. C'est peut-être plus pertinent de l'avoir en périphérie et d'avoir en centre-bourg un service qui n'ait pas besoin de déplacement. Vous voyez, c'est tout cet ensemble de choses.
C'était pas ma question. C'est-à-dire que Carnac est-elle considérée comme un bourg ou comme une ville? Parce qu'un bourg, on a le droit à 1 million de subventions. Et si on est considéré comme une ville, et quand j'ai regardé quand est-ce qu'on était considéré
c'est
comme
une ville.
Ville. Donc, c'est une ville. Donc c'est pour 2 millions qu'on candidate.
C'est une ville.
Oui, c'est très bien.
Comme Mouret.
D'accord.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cet appel à projet? Je vous rappelle qu'on n'est pas sûr de gagner l'appel à projet. Il y a beaucoup de communes qui vont candidater. Donc, il suffit de faire un bon dossier. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des...
Monsieur Daribal? Vous pourrez nous tenir informés du projet qui sera présenté?
Ah ben, bien sûr. On pourra même vous communiquer ce qu'on aura écrit sur le sujet dans le cadre de l'appel d'offres. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Monsieur Marc-Albert, vous commencez un long rallye par celui des subventions.
Les subventions de DETR pour 2019, on en demande tous les ans. Et cette année, on demande pour la construction de la salle des activités sportives au MENEC. Donc on a droit à 35%, ça fait 102 085 €. Et pour l'aménagement et accessibilité du cimetière, où on a droit à 30%, pas 35%. Et donc, ça fait pour 24 000 €. Donc, les demandes vont être faites et on espère avoir le montant de presque 130 000 € pour pouvoir avancer sur nos dossiers ou nous aider à en faire plus.
Parfait. En général, tout le monde est d'accord pour demander des subventions. Unanimité. Je vous remercie. Monsieur Marc-Albert, je vous propose de grouper peut-être les rapports 8, 9, 10... 11, 12, non,
puisque... Non, je vais d'abord faire le 8, puis je ferai les autres si ça ne vous embête pas.
Bon, ok, d'accord. Allez-y, ouais. Alors. Allez-y.
Bon, pour une fois que je décide de faire autrement.
C'est le même
endroit.
Non,
mais c'est-à-dire que le premier, c'est l'acquisition du terrain appartenant à Mme Dréano. Elle nous avait fait une proposition où on avait passé une délibération le 25 juin, où elle avait donné un prix qui était même en dessous celui qu'avait donné son notaire pour son partage. Donc, elle a voulu l'enlever. Et comme on en a discuté entre nous, on avait décidé qu'il fallait bien... acheter ces terrains-là, mais qu'on voulait qu'on se mette d'accord, que tout le monde soit à peu près soit au même prix, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'histoire plus tard. Donc, du coup, pour elle, on a enlevé, c'est marqué dessus, on annule la délibération du 25 juin 2018, la numéro 71, et donc on lui propose, comme à tout le monde, d'acheter son terrain à 3 euros le mètre carré, et elle a 2565 mètres carrés, ça lui fait 7 095 euros.
Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions?
On pourrait faire quelques commentaires. Je fais un commentaire sur l'ensemble de la zone. Bon, tout à l'heure, nous avons donné un avis favorable pour la VAP.
Ouais.
Et c'est dommage que tous ces parcelles que l'on va acheter... Non, ce n'est pas sur l'acquisition qui pose problème, c'est la destination. Mmh. Ils font partie d'une zone NM2. C'est l'écrin naturel de protection des mégalithes, face au tumulus Saint-Michel, près d'un chemin piétonnier. Et on va faire une décharge.
Non, pas une décharge.
Stockage de matériaux, enfin bon,
non,
ça va pas être rangé méticuleusement à l'appel, ça va être béné par une des remorques.
C'est temporaire, monsieur Lozic, c'est juste pour entreposer.
Temporaire qui pourrait durer, parce que dans le règlement ministériel, si on peut le laisser jusqu'à 3 ans, mais si c'est renouvelable tous les 3 ans, ça reviendra.
Je comprends. D'abord, c'est dans le strict respect de la loi, c'est autorisé, et par ailleurs, ce sera vraiment, je dirais, de manière temporaire.
Parce que dans le PLU, enfin dans le PLU que nous avons voté donc le 24 juin 2016, il n'y a pas les suppléments des 3 ans. On dit simplement que dans ces zones sont interdits toute installation de stockage de déchets. Et Carnac est une zone protégée puisque nous venons de voter pour la VAP. Il y a des mégalithes, on veut un projet UNESCO et là on va mettre dans ce périmètre-là des déchets, enfin, c'est une décharge.
Sauf que, monsieur Lerouzic, il y a des exceptions sur ce que vous dites, et il y a marqué que les déchets peuvent être entreposés dans une durée inférieure de 3 ans afin de permettre la préparation et un transport en vue de la valorisation dans un endroit différent, où les déchets peuvent être entreposés pour une durée inférieure d'un an avant leur transport dans des lieux de stockage définitifs. Et oui. Comme vous le savez, sur le terrain de Ange Le Guenec, quand on a fait Bosseno, on s'en est servi pour mettre les terres pendant les fouilles et qu'elles y sont toujours. Donc, elles n'ont même pas été enlevées au bout de 3 ans. Donc, nous, on garantit de les enlever au bout de 3 ans, comme on fait au Ménèque, où tous les ans ou tous les 2 ans, l'entreprise de Jean, pour ne pas la citer, vient régulièrement enlever nos gravats pour que, justement, il y ait un roulement et que ce ne soit pas entreposé, que ça ne devienne pas une décharge.
Oui, mais 3 ans renouvelables, donc ça vient perpétuel.
Non, il faut que les déchets restent.
Parce que normalement, c'est 3 ans, point, et on doit s'en aller.
Non. Ce sera moins de 3 ans et ce ne sera pas perpétuel.
Il y a marqué, je vous l'ai fait, les déchets sont entreposés pour une durée inférieure à 3 ans afin de permettre leur préparation et un transport en vue d'une valorisation dans un endroit différent.
Donc, okay.
Si les déchets restent moins de 3 ans...
On respectera la loi.
Voilà, c'est tout.
Il n'y a pas de problème.
C'est marqué noir sur blanc.
Mais dans le PLU de Carnac...
Sur le PLU de Carnac, il y a marqué les déchets inertes ISDI et dans les ISDI, si vous cherchez sur la documentation, il y a bien marqué que à exclusion de celles où les déchets ne restent pas plus de 3 ans et où ils sont enlevés tous les ans. Vous avez un document pour le rajouter au...
Monsieur Lerouzic.
D'accord.
Ok.
Merci.
On l'a fait, on a été ensemble dans son conseil municipal, dans la même majorité. On a stocké souvent des déchets dans ce type de terrain, alors que le PLU était... également stipuler également ce genre de choses. Voilà, c'est pas, on le fera pas pendant plus de 3 ans et on respectera la législation. Vous inquiétez pas.
Si, je suis désolé, je vous ai
bon,
dit.
C'est bon. On va pas rentrer dans ce genre de débat puéril. Bien sûr que ça a été fait et Marc Hull sait très bien. Monsieur Deripin.
Bon, aller dans le sens de Marc, mais vous le savez. En fait, vous êtes en train de respecter la lettre de la loi, parce qu'en effet, il y a une loi sur le stockage de ces déchets, mais vous respectez absolument pas l'esprit du PLU. Le PLU, il est très clair. Il dit, en NM2, interdiction de stockage de tout déchet. Donc, c'est ça, l'esprit du PLU.
Oui,
et il n'est pas respecté.
Il est respecté, et on a besoin, temporairement, de mettre de temps en temps à des endroits, mais pas de manière définitive, et donc on a besoin de s'en servir. Voilà.
Moi, j'aimerais comprendre la parcelle AC20, c'est ce qu'on est en train de revoter. Oui, AC120, pardon. C'était la même chose qu'on avait voté donc au mois de mai, c'est-à-dire qu'on achetait.
Calbert a expliqué au début de.
Donc c'est exactement la même chose.
Oui,
alors vous m'expliquez,
il sera proposé. Alors, donc, elle avait dit oui, je ne sais plus, c'était 50 centimes. Enfin, c'était pas
non, mais, Madame Le Golvan, Monsieur Marc Albert vient de vous l'expliquer.
J'ai pas bien compris.
C'est-à-dire qu'on vend les mêmes terrains à côté à 3 euros, et pour ne pas faire de différence entre les propriétaires à un même endroit, on lui offre le même prix qu'aux autres propriétaires. C'est ce que Monsieur Marc Albert vous a expliqué.
Non, non, mais c'est pas le problème. C'est qu'on peut revenir, en fait, sur son prix.
Merci. Je vous propose de passer au vote pour ce rapport numéro 8. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté. Alors, monsieur Marc Albert, on groupe les 9,
on groupe les
10,
autres. D'accord.
Donc, 10, 11, 12.
C'est la parcelle AC728 de Madame Marie Le Guénec pour une surface de 2348 m². On a l'acquisition de Monsieur Joseph Quérineau pour environ 500 m², parce qu'il faut qu'on borne, il y aura peut-être quelques mètres carrés en plus. D'accord, c'est une partie de la parcelle AC726. On a également la parcelle des consorts Geisel, qui elle fait 1665 m² pour un montant estimé à 4 995 €. Et la parcelle de Ange Le Guénec, qui fait 4 345 m² pour 13 035 €. Voilà. Il s'agit de prononcer pour la proposition de Monsieur Rio du courrier du 28 novembre 2008 qui propose d'acheter une parcelle C153 d'une superficie de 4 915 m² à Carrois. Il souhaite l'acquérir pour prolonger la continuité des parcelles C152 et C154 qui lui appartiennent, sur lesquelles il met des chevaux. Donc il nous avait écrit, on lui a proposé... On a validé en commission de travaux le prix de 0,45 € le mètre carré. Donc, à première vue, il est OK de prendre à ce prix-là. Et il sait qu'il prendra à sa charge les frais de géomètre et tous les frais qui sont dus à ce sujet-là.
Pas de questions. Unanimité cette fois-ci pour de vrai. Parfait, merci. Un déclassement puis un échange, c'est ça, M. Marc Albert,
c'est fait,
les
oui.
Rapports 14 et 15.
C'est un déclassement d'une parcelle qui est juste devant une ferme à Coetatus, qui est depuis au moins une trentaine d'années, je dirais peut-être plus, qui a été récupérée par le propriétaire et qui s'en servait comme jardin. Et donc le propriétaire voudrait garder ces parcelles et nous a échangé contre deux autres parcelles. Donc on a commencé par déclasser le terrain. Donc là, on est là pour valider le déclassement du terrain. Une surface de 161 m² et une petite surface un petit peu plus haut, qui est de 30 m², qui était au bord d'une voirie communale, et qu'on a alignée. Voilà.
Voter les deux rapports ensemble.
On peut aussi
vous puisque c'est un échange.
D'accord. Mais comme il fallait déclasser et puis après changer, c'est pour ça que voilà, comme vous voulez. Et du coup, il nous a redonné la même surface. Presque au mètre carré près, à côté dans un terrain qui lui appartient. Il voulait mettre cet échange différemment, mais comme il y a un mur que la BF ne veut pas qu'on casse, donc il est obligé de se déplacer un petit peu. Bon, ça a pris du temps à discuter, comme ça permettra aux propriétés d'au-dessus de pouvoir accéder chez eux par un chemin communal. Donc tous les frais sont à sa charge, bien sûr.
Monsieur Lourdic.
Les aménagements de la voirie.
La voirie sur la parcelle qui sera communale.
Voilà.
Ok.
Pas d'autres
questions. Le mur n'est pas dans la vape. Hein.
Le mur, l'architecte des bâtiments en France, j'étais avec Michel Durand, nous a dit qu'il ne voulait pas que le mur soit cassé. Monsieur Rieu nous a dit que c'était le mur de son ancienne grange. On lui a dit peut-être, mais donc on n'a pas pu.
Il n'est pas à la vape, mais la BF veut qu'on le présente.
Voilà.
Donc oui, il est pas dans la vape parce qu'on a vérifié.
Non, mais il n'a pas dit qu'il est dans
la vape. Le problème, c'est pas qu'il est dans la vape, c'est que la BF veut qu'on le préserve. Il n'a pas besoin d'être dans la vape pour ça.
Sinon, il voulait nous échanger avec la limite de la clôture avec des arbres qu'on voit un petit peu vertes là, le long du truc. Il me dit que non, ce n'est pas possible. Donc, on est fini par se mettre d'accord comme ça. Voilà.
Qu'il y a des votes contre, des abstentions, unanimité, je vous remercie. Dernier rapport, Monsieur Marc Albert, rapport 16, rapport sur le syndicat départemental d'énergie du Morbihan.
C'est une délibération pour autoriser, pour l'éclairage qui se fera autour du restaurant scolaire dans les espaces verts qu'il y aura. Donc, il y en a pour un montant de 29 760 euros TTC.
Des questions sur ce rapport ? Passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Je sais que c'est une grosse somme, Chris, mais enfin, quand même, ça fait des émotions. Donc, pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. Il n'y a pas de questions diverses, pas de questions orales. Le conseil municipal est donc clos. Je vous souhaite à tous un bon week-end.